Prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela.
Chape de qui danse, chape de qui danse, et de son doigt il danse,
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 et de son doigt,
et de son doigt,
ainsi danse Jean Petit,
ainsi danse Jean Petit.
Salut à tous et salut à toutes, j'espère que vous vous portez bien. La chronique d'aujourd'hui repose sur une hypothèse. Alors, comme toute hypothèse et par nature, il en existe d'autres, mais enfin, celle-ci, elle est vraisemblable, d'autant qu'elle est étayée, argumentée, documentée par un certain nombre d'historiennes, d'historiens, et d'historiens parmi lesquels Gérard Noiriel. C'est à lui que nous empruntons cette idée, cette proposition qui va transformer une chanson enfantine, une comptine, alors on ne peut plus classique, on ne peut plus banale, on ne peut plus passe-partout, en authentique champ de bataille, qui va nous ramener à des révoltes populaires qui ont secoué le sud-ouest de la France durant le XVIe et XVIIe siècle. Cette chanson s'appelle « Jean Petit qui danse ». Probablement que beaucoup d'entre vous la connaissent, cette chanson. Elle a été, et semble-t-il, elle reste encore un grand tube dans les cours de récréation des écoles maternelles. Elle a bercé des générations entières de bambins. À mon avis, elle va continuer à en bercer un sacré nombre. C'est une danse, la danse de ce fameux Jean Petit qui s'anime de manière rythmée, de manière aussi cumulative avec les différents membres de son corps. Il danse avec son doigt, 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 avec sa main, 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 avec son bras, bras, bras. Ainsi danse Jean Petit. Et la liste est évidemment extrêmement longue. C'est une chanson quasiment, quasiment infinie. Alors c'est vrai que cette chanson d'origine occitane, en tous les cas, probablement d'origine occitane, a quelque chose dans la musicalité, dans la mélodie qui pourrait nous faire dire que ça la rattache à quelque chose qui viendrait du côté des ballades médiévales, c'est-à-dire ces chansons populaires, simples, des chansons qu'on chantait et qu'on dansait également. Et d'ailleurs, la chanson « Jean Petit qui danse » se danse également, c'est même conseillé, soit en ronde, soit en faisant trois tours autour de soi, sans jamais oublier de désigner les différentes parties du corps dont il est question dans cette chanson. D'après donc les historiens, cette chanson a quelque chose à voir avec ces grandes insurrections paysannes du sud-ouest de la France du XVIe et XVIIe siècle qu'on appelait les révoltes des croquants. Alors croquants, c'est un intitulé qui immédiatement en général nous dit vaguement quelque chose sans qu'on arrive exactement à très très bien le situer.
Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte.
Croquant, semble-t-il, pendant longtemps, ça désignait la noblesse qui croquait le peuple, c'est-à-dire la noblesse locale, qui, eh bien, collectait l'impôt sur le dos du peuple. Or, justement, la question fiscale est à l'origine de toutes ces révoltes-là, et donc de ce mot-là, par effet miroir, on a parlé du peuple comme étant les croquants. Il existe une autre interprétation qui dit qu'en réalité, c'est un terme tout à fait péjoratif pour parler de la manière dont les paysans croquaient le pain. Il y en a d'autres, enfin, qui estiment qu'en réalité, ça n'a rien à voir et que tout vient d'une localité de la Creuse, croque d'où seraient parties les premières révoltes et les premières frondes. Quoi qu'il en soit, et ça c'est certain, des révoltes des croquants, il y en a dès la fin du XVIe siècle avec une phase d'accélération notable entre 1593 et 1595. Alors il y a un contexte qui explique tout ça, qui est le contexte premier, mais c'est pas le seul, qui est celui de la fin de la guerre des religions qui durant le XVIe siècle en France, vous le savez, a opposé les catholiques aux protestants. Ça a été absolument terrible, hein, pas moins de 8 guerres civiles, quelques 2 millions de morts. Ça a été absolument incroyable pendant 40 ans. On pourrait croire que c'est de cela dont il s'agit dans toutes les mobilisations. En fait, l'argument fondamental, c'est d'abord et avant tout le ras-le-bol fiscal, déjà, le ras-le-bol de toutes ces taxes qui empêchent la population de pouvoir vivre. Et du coup, on a des grandes mobilisations, des mobilisations qui deviennent insurrectionnelles dans le Limousin. On en a également en Guyenne. Alors, la Guyenne, c'est C'est une région qui n'existe plus, c'est une ancienne région royale, on va dire, qui recoupe tout ou partie aujourd'hui de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, avec comme ville principale Bordeaux. On a aussi des grandes révoltes dans le Périgord. Bref, ces luttes vont être largement réprimées, on pourrait croire que tout s'arrête ici. Eh bien non, le tout va continuer durant le XVIIe siècle, en particulier avec un épisode en 1624, cette fois-ci en Quercy. Quercy, pareil, une ancienne région royale, on pourrait dire que son périmètre actuel va quelque part autour du Lot et une partie du Tarn-et-Garonne, avec comme plus grande ville Cahors. Là, ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est la fin de l'exemption de la gabelle. La gabelle, c'est l'impôt sur le sel. Alors nous, évidemment, ça ne nous dit plus rien, mais le sel, à l'époque, c'est le condiment qui permet, et le seul, de conserver les aliments. C'est donc un condiment de première nécessité. Or, du point de vue du stockage du sel, eh bien, c'est le royaume qui a le monopole et qui n'oublie pas, évidemment, de se rincer au passage. Mais en fait, il y a un côté plus cumulatif, déjà en 1624, dans cette révolte du Quercy, c'est le fait que là aussi, les taxes s'accumulent. Il y a non seulement la gabelle, mais il y a aussi la dîme. La dîme, vous savez, c'est cet impôt qui sert notamment à financer un certain nombre d'institutions religieuses catholiques. Je dis un certain nombre parce qu'il y a un débat à ce moment-là dans la population pour dire pourquoi pas cet impôt-là, mais dans ces cas-là, pour le petit clergé, pour les petits curés, pas pour l'Église en tant qu'institution qui participe de l'oppression. Là, on a déjà cette dimension qu'on retrouve par-delà les frontières depuis quasiment un siècle. On se souvient par exemple de la grande guerre des paysans allemands vers 1534, qui nous prouve que derrière la question religieuse, en fait, la question de la lutte de classe s'invite d'ores et déjà. Donc, gabelle, la dîme, il y a aussi la taille. La taille, c'est un impôt qui renfloue directement les caisses de l'État au niveau central, avec une oligarchie locale qui prend sa part et qui va s'attirer toutes les foudres de la population, qu'elles vivent dans les villes ou qu'elles vivent dans les campagnes. C'est une bataille du côté de Cahors qui va se terminer, j'allais dire, sans grand conflit majeur du point de vue militaire. En tous les cas, le royaume ne va pas oublier de faire arrêter les meneurs et de les exécuter, histoire de faire l'exemple. L'exemple, visiblement, ne suffit pas, puisqu'il y a un nouveau rebond, en particulier en 1643, qui nous ramène à notre champ de bataille et qui va intervenir en Rouergue. Rouergue, c'est-à-dire l'actuel Aveyron, à Villefranche de Rouergue en particulier, avec une révolte menée par une armée de centaines de milliers, peut-être même de paysans, avec à leur tête un certain nombre de meneurs, dont un certain Jean Petit. Alors là, ce qui, justement, à ce moment-là, était la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça a été une contribution fiscale qui, d'après les historiens, aurait été multipliée par 4, 5 ou 6 en quelques années. Pourquoi ? Eh bien, parce que le royaume de France, depuis 1635, donc quelques années auparavant de cette révolte qui date de 1643, a décidé de s'impliquer dans la guerre de 30 ans. Sous le règne de Louis XIII, la guerre de 30 ans, ce qui fait que le royaume de France, eh bien, va participer à cette bataille européenne contre la famille des Habsbourg en Espagne. Quand on fait la guerre, il faut trouver de l'argent. Et du coup, eh bien, la fiscalité n'en finit pas de décupler, d'augmenter et prend à la gorge la majorité de la population. Il y a un autre élément qui explique cette révolte. Gérard Noiriel le surligne et je crois qu'il a raison. C'est la peste. La peste, pour avoir un ordre d'idée, entre 1620 et 1640, c'est quelque 2 millions de victimes. 2 millions de victimes avec un autre élément en termes de lutte de classe et politique intéressant, c'est que les plus riches, quittent les villes pour se réfugier dans leur résidence secondaire. Évidemment, toute proportion gardée, ça nous rappelle 2-3 bricoles au moment du confinement. Et parmi les secteurs les plus riches, il y a les médecins qui quittent les villes. Et donc la question se pose, qui s'occupe des malades ? Eh bien, pas les médecins, un certain nombre d'autres catégories qui s'occupent précisément d'un certain nombre de patients, parmi lesquels, eh bien, figurent les chirurgiens barbiers. C'est quoi les chirurgiens barbiers ? Eh bien, c'est ceux qui, depuis des siècles, durant le Moyen-Âge, s'occupent à la fois des barbes, mais s'occupent également de faire des saignées pour soulager les premières maladies. C'est ce type de corporation qu'on trouve parfois dans des milieux illettrés, qui ne s'occupent, d'une multitude de maladies, mais sans avoir la formation globale des médecins. On a aussi les arracheurs de dents et autres types de corporations de ce type-là. Les chirurgiens barbiers existent, et il y en a un qui porte un nom, il s'appelle précisément Jean Petit. Jean Petit était un chirurgien barbier, et peut-être que sa notoriété, sa popularité, vient de là, du fait que les chirurgiens barbiers sont restés aux avant-postes, en première ligne, on dirait de nos jours, lorsque la peste était en train de sévir dans les villes et que les médecins étaient partis au loin. C'est une des raisons, peut-être, qui fait que Jean Petit se retrouve à la tête de cette grande sédition qui, en 1643, va obtenir, en tous les cas, un temps satisfaction. Et c'est la troisième raison qui explique l'impact de cette révolte, c'est la crise politique en 1643. Louis XIII meurt, c'est le début de la régence de ce qui deviendra le règne de Louis XIV. Donc il y a une vacance de pouvoir, et dans cette vacance de pouvoir, la colère s'engouffre, ce qui fait qu'à Villefranche de Rouergue, Jean Petit et ses acolytes obtiennent une sorte de moratoire sur la fiscalité. Ça va durer qu'un temps. Lorsque Mazarin va prendre la succession de Richelieu, dont finalement le poste d'État du royaume qui est le plus important, on va envoyer les troupes royales. Et là, la répression sera absolument terrible. Les meneurs seront arrêtés, parmi lesquels Jean Petit. On va leur imposer le supplice. Alors là aussi, il y a différentes thèse possible, soit écartelée, c'est-à-dire démembrée, soit le supplice de la roue, c'est-à-dire qu'on attachait le corps de la victime à une roue, qu'on maintenait face contre sol, et là, le bourreau, avec un instrument contendant, avec une barre par exemple, cassait, brisait les membres du corps les uns derrière les autres jusqu'à ce que mort s'ensuive, et on laissait le corps en exposition 2 à 3 jours. Et du coup, vous avez deviné que peut-être cette chanson « Jean Petit qui danse », loin d'être une chanson macabre, cherche à réanimer dans nos mémoires le corps de Jean Petit et du coup la mémoire de cette grande lutte populaire, celle des croquants contre les impôts.
Jean Petit, il a dansé une drôle de danse. Il a dansé avec son pied quand on lui a brisé le pied et sa main quand on lui a brisé la main. Élodie, dit, attends que danse Jean Petit qui danse. Per le rey de France. Et il y a comme ça quelquefois l'histoire qui prend des drôles de chemins. Elle prend des chemins de ronde pour les enfants. Et les enfants, ils chantent après, ils chantent Jean Petit qui danse dans le rey de France. Jean Petit qui danse, ça passe qui danse dans le père, dans la maman. Dalludi, attaque danse Jean Petit.
Cette grande lutte populaire qui vient nous redire une chose, amis auditeurs et auditrices de là-bas si j'y suis, c'est que la critique de l'impôt n'est pas en soi de droite. Il peut y en avoir une autre sur des bases extrêmement radicales et sociales parce que des révoltes de cette envergure, il y en a eu de nombreuses en France. On parlait donc de la révolte des croquants, mais de manière quasiment contemporaine, on a la révolte des nu-pieds en Normandie, on a la révolte des bonnets rouges déjà à l'époque en Bretagne. Et puis quelques temps plus tard, on va avoir une mobilisation qui va se transformer en révolution, la révolution de 1789, qui puise également ses racines dans ce cadre-là. Rappelons que Louis XVI, dans le cadre de la crise économique qui travaille le royaume, va chercher à ramener de l'argent dans les coffres-forts de l'appareil d'État, va systématiser l'impôt, va susciter le mécontentement, y compris dans des catégories intermédiaires, même auprès d'une partie de la noblesse, d'où la convocation des États généraux. Et on sait qu'autour de la convocation des États généraux va se nouer la Révolution française de 1789. C'est l'occasion de constater qu'en fait, la fiscalité en soi n'est rien. Tout dépend de ce qu'on décide d'en faire comme outil collectif. La fiscalité, ça peut être un moyen de collecter l'argent public. Il en existe d'autres pour financer les services publics, pour satisfaire nos besoins sociaux immédiats. Ça peut être aussi un moyen de redistribuer les richesses, en effet, entre tous et toutes, avec le fait de s'attaquer, par exemple, aux bénéfices, aux profits. Mais la fiscalité, ça peut être aussi, eh bien, le fait de venir en aide à un capitalisme bien malade, un capitalisme qui vit sous perfusion, de nos jours, quelque 200 milliards d'euros d'argent public sert chaque année à financer les entreprises privées, pendant que les services ferment les uns derrière les autres dans les hôpitaux publics, pendant que les classes ferment les unes derrière les autres dans les écoles publiques et qu'on manque cruellement de moyens dans la fonction publique et dans l'ensemble de nos services publics. Donc la fiscalité, une fois encore, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Et puisque nous parlons de champ de bataille, rappelons quand même de mémoire que le grand champ de bataille majeur du mouvement ouvrier, l'International en parle dans un passage, le passage suivant, qui nous dit « L'État comprime, la loi triche, l'impôt saigne le malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit des pauvres est un mot creux ». Ça colle tout à fait à l'actualité, raison pour laquelle on espère tous et toutes le fait qu'il y aura de nouveau des mobilisations de croquants, de nu-pieds, de bonnets rouges, de gilets jaunes, on les appelle comme on veut, mais une bonne vieille révolte sociale. Prenez soin de vous.
L'État comprime et la loi triche, l'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languirante tutelle, l'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux pas de devoir sans droit.